petit moment d'émotion toujours quand on démarre les Imaginales. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui pour le lancement de la 15e édition du Festival des Imaginales. Et évidemment, pour commencer, je passe la parole à Michel Henrich, député maire d'Épinal.
Bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir. Ravi de vous accueillir ici pour cette 15e édition des Imaginales, un vrai moment de bonheur. C'est un moment qui est attendu du public, attendu également de la part des auteurs, mais également attendu de la part de tous les professionnels du livre et comme tous les ans, des choses nouvelles. Alors bien sûr, cette 15e édition est également associée à la 4e édition des Imaginales maçonniques et ésotériques, qui en est à sa 4e édition et qui, elle, proposera notamment une réflexion autour de la lettre G, de la glorification du corps à la gestuelle, en passant par l'Empire du Graal. Mais je voudrais quand même rappeler que tous les ans, depuis maintenant, depuis sa naissance, ici même, d'ailleurs dans cet espace, les Imaginales n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, les Imaginales sont le plus grand festival de romans fantasy en France et peut-être en Europe. L'an dernier, nous avons accueilli près de 25 000 festivaliers. 5 000 personnes ont participé aux différents débats et échanges. Et aujourd'hui, on espère que la fête sera encore plus belle et sera encore plus grande. Alors bien sûr, elle est toujours ouverte au jeune public, qui est important. On le voit ici, il suffit de se balader dans les allées du cours pour voir combien les jeunes sont nombreux et présents. Je rappelle nos prix. Nous avions démarré avec le prix des lycéens. Aujourd'hui, ce sont 38 lycées qui participent. Le prix des collégiens, ce sont 30 collèges. Et puis, pour la deuxième année, si je ne m'abuse, le prix des écoliers. Alors, c'est moins important en nombre de classes qui y participent. Mais c'est quand même tout à fait conséquent. Il y a même des classes de départements voisins qui y participent. Et je voudrais remercier d'emblée tous ceux qui ont permis l'organisation de ces prix, à la fois des lycéens, des collégiens et des écoliers. Alors, chaque année, désormais, et vous allez vite le comprendre, un pays est mis à l'honneur. Alors, ça a été l'Allemagne en 2013, l'Espagne en 2014, le Royaume-Uni en 2015, et cette année, c'est les États-Unis, puisque un grand nombre d'auteurs qui sont ici à la tribune ou devant sont des auteurs américains à qui nous souhaitons bien sûr une très chaleureuse bienvenue. Alors cette année, pour la deuxième année, l'an dernier nous avions un thème, le festival s'est doté d'une thématique, c'était après mutation, l'an dernier, cette année c'est Évolution, alors qui s'ouvre à tous les débats de société, aux évolutions des métiers d'écrivains et d'éditeurs, mais aussi aux réflexions sur les sciences qui font leur grande entrée dans cette année des Imaginales. Et puis, nouveauté également, c'est le Dôme des sciences. Alors, le Dôme des sciences, grâce à l'Université de Lorraine, dans le cadre du programme CERCO, avec la TILF, un gros travail a été réalisé autour d'une exposition autour de Jules Verne et le dictionnaire du trésor de la langue. Je voudrais aussi souligner le travail fait par l'équipe du planétarium ici sur les météorites. Enfin, vous aurez le bonheur de découvrir tout cela dans quelques instants. Donc à côté de ce Dôme des sciences qui est nouveau et qui complète nos Magic Mirror, la bulle du livre et la bulle du jeu, nous avons aussi un nouvel espace qui est un espace historique. Et là aussi, je voudrais rendre hommage au comité d'histoire régionale de la forteresse de Châtel avec qui nous organisons des tables rondes autour des liens qui unissent recherche historique, création littéraire, que nous accueillons de nombreuses associations de reconstitution historique. Alors, là, ce n'est plus une nouveauté, parce que c'est la 4e année. Nous aurons aussi les rencontres nationales du body painting. On l'a eu, c'est la 4e année. Et enfin, cette année, les festivaliers feront la fête tous les soirs, puisqu'il y a soit il y a un spectacle tous les soirs. Vous le retrouverez dans le programme, je ne vais pas vous les détailler. Et je voudrais aussi remercier tout particulièrement tous ceux qui nous ont permis l'organisation de 12 expos à travers la ville. Dans tous les lieux traditionnels d'exposition, parfois des lieux plus originaux comme des magasins ou de World Bank ou d'autres sites. En tous les cas, dans les principaux lieux d'exposition de la ville, il y a un programme assez génial d'exposition. Et vous aurez la possibilité de bénéficier de navettes pour vous rendre d'une exposition à l'autre. Donc 12 expos à ne pas rater et profiter de ces 4 jours pour découvrir ces différentes expositions. Je voudrais remercier encore, avant de passer la parole à Stéphanie Nico, adresser encore quelques remerciements. Tout d'abord, j'ai manqué en évoquant les écrivains américains. Nous sommes particulièrement heureux parce que ça a pour nous une connotation un peu particulière d'accueillir Danielle Trussoni, puisqu'elle est originaire de La Crosse dans le Wisconsin, et chacun sait, ou en tous les cas les spinaliens le savent, la ville d'Épinal est jumelée depuis des décennies avec la ville de La Crosse dans le Wisconsin. Donc un particulier bienvenue à vous Danielle. Et puis j'ai à mes côtés la personne qui a, Hélène Labrette, qui a dessiné cette magnifique image des Imaginales. Alors tous les ans, c'est un autre artiste qui crée l'image. Mais c'est la première fois que c'est une femme, je crois.
C'est la deuxième
femme donc à créer une image. En tous les cas, un grand bravo. Je crois qu'elle est déjà, elle fait déjà l'unanimité. Et elle est très très appréciée. Et puis, pour conclure, encore quelques remerciements, si vous le permettez, parce que l'ensemble de la ville s'est mis au diapason des Imaginales. Et c'est pour nous très important que tout le monde s'investisse. Et je voudrais souligner notamment l'action que mènent les commerçants qui ont décoré leurs vitrines aux couleurs et sous le signe des Imaginales. Merci aussi à eux de cette participation. Tout à l'heure, après que l'on vous a présenté le déroulement de cette 15e édition du festival, je vous inviterai également à aller visiter deux expos, une réalisée par les enfants de CM1 dans une dont j'ai perdu le nom de la classe, on ne peut pas faire ça. C'est les CM1 de l'école de Saint-Laurent, pardon, qui ont travaillé avec les étudiants de l'école de l'ESPE sur le thème de la Révolution et qui ont présenté ici des œuvres tout juste à côté de nous. Et puis il y a une autre expo photo que je vous invite également à visiter, qui est celle de Chanel Keul. D'ailleurs, j'aurai le plaisir d'offrir aux écrivains qui sont ici présents le livre qui recueille toutes les photos et la vue, l'œil de Chanel Keul qui a visionné, photographié différents espaces, monuments ou lieux tout simplement ici à Épinal. Voilà quelques mots. J'espère bien sûr en introduction vous redire tout le plaisir que nous avons à vous accueillir, que nous sommes très heureux de le faire, que c'est pour nous un moment très fort dans la vie de la ville. Je voudrais remercier bien sûr Stéphanie Nico pour le travail considérable qu'elle a accompli tout au long de l'année pour préparer cette 15e édition. Remercier aussi Stéphane Bizère et toute son équipe qui ont fait un super boulot et le tout dans une excellente ambiance. Merci à eux. Très bon festival à vous toutes et à vous tous. Et Stéphanie, je vous passe la parole.
Et oui, que de chemin parcouru ensemble. Quand on a lancé le festival, il y a maintenant 14 ans, quand on l'a préparé pour la première fois, il y a 15 ans, on n'imaginait sans doute pas l'ampleur qu'il prendrait. On l'espérait, bien sûr. Je crois qu'on n'imaginait pas qu'on en serait déjà là au bout de 15 ans. Et ça, c'est grâce à tous ceux que le maire a remerciés, mais c'est aussi grâce à une osmose entre les habitants d'une ville, d'une agglomération, d'une région, des festivaliers qui viennent de toute la France et des régions limitrophes, mais aussi, bien sûr, j'allais dire, last but not least, pardonnez mon accent, tout simplement les écrivains et les artistes. C'est facile aujourd'hui de venir à Épinal, la réputation la précède. C'est facile de venir, je crois, aux Imaginales, parce que je crois qu'on sait qu'on y accueille bien les écrivains. Mais ce n'était pas évident au début. Les premières années, où on n'avait pas encore le TGV, c'était long pour venir, où on n'avait pas fait nos preuves, et où il fallait nous faire confiance. Et cette osmose, elle a pris. Entre une ville, entre ses habitants, entre les artistes, et entre les festivaliers qui parfois, dès le mercredi, occupent les hôtels, et restent 4 jours pour faire des rencontres. C'est une blogueuse qui disait, je crois l'an dernier, sur son site, en tirant le bilan, les Imaginales, c'est le festival des belles rencontres. Alors, ces belles rencontres, vous êtes un certain nombre à les illustrer. Je voudrais donc d'abord, avant de présenter nos invités, de leur passer la parole, je voudrais saluer au premier rang. On est tellement nombreux maintenant qu'on ne peut plus mettre tout le monde sur la tribune. On a donc décidé de mettre cette année notre affichiste, le coup de cœur du festival et évidemment la délégation du pays invité, nos amis américains. Mais je tenais à saluer nos invités anglo-saxons. Christopher Priest qui devient un ami de la famille, 3 ans consécutifs, et toujours autant de bonheur de l'accueillir, une des grandes plumes de la science-fiction britannique. Anthony Ryan, la fantasy d'action intelligente britannique, j'ai beaucoup aimé ses 2 premiers tomes, on le découvrira pendant toute une série de débats. Et puis aussi 2 auteurs qui ont décroché cette année le prix Imaginal des collégiens. Bonjour Victor Dixen. Victor Dixen qui est un ex-coup de cœur du festival, mais donc il l'est toujours, et qui est un auteur qu'on suit depuis le début de sa jeune et brillante carrière. J'insiste en disant que le livre récompensé par nos jeunes collégiens qui ont donc du goût est un livre qui va être traduit en anglais, au Royaume-Uni. Voilà, maintenant nos auteurs de talent s'exportent. Et puis aussi Paul Behorn qui lui vient d'obtenir le prix Imaginal des lycéens pour lui aussi un beau roman de fantasy d'action qui pose aussi le problème de la responsabilité, de l'engagement et de la rédemption, de très beaux thèmes, mais néanmoins une plume alerte et un vrai récit qui a su séduire nos lycéens. Et puis Charlotte Bousquet, qui est une amie de très longue date du festival, presque des débuts. Charlotte qui a été notre coup de cœur, Charlotte qui a eu le prix Imaginal des collégiens, Charlotte qui a eu, ce ne sont pas les mêmes jurys, j'y insiste, qui a eu le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy de langue française. Et puis Charlotte cette année qui est auteur associé avec l'aide du Centre National du Livre, avec l'aide de la DRAC Lorraine et de la région. Et ça, c'est aussi le moyen d'avoir une auteure qui, tout au long de l'année, jusqu'au mois d'octobre, va rencontrer des élèves, va aller dans les bibliothèques, va aller dans des salons. J'en reste là, mais je tenais à la saluer tout particulièrement et la remercier aussi pour le travail, les textes qu'elle a écrits, pour donner son regard d'artiste connaissant bien le festival et l'imaginaire sur justement ce dont vous parliez, monsieur le maire, l'exposition de Chanel Keul. Donc vous aurez l'occasion de voir les textes de Charlotte à l'appui de cette exposition. Nos amis américains, on a déjà présenté évidemment Daniel Trussoni, dont des liens nous attachent particulièrement. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, vous verrez pendant le festival, elle va nous parler, fantaisie urbaine, d'ange. Ah oui, il faut aussi un supplément d'âme, d'esprit et un peu d'élévation, mais on verra que tout ça n'est pas si simple avec ses romans. Et puis, Kristen Brittain, qui a commencé dans le vaste monde et aux États-Unis par être garde forestier, je ne sais pas si on dit garde forestière, et qui donc nous fait des romans de fantaisie d'action. Des romans où on parle évidemment de complot, de guerre, de courage. Beaucoup d'héroïnes féminines, brillantes. L'héroïne principale est une femme d'action, une jeune femme d'action. Et puis, on trouve aussi cet amour des forêts, même quand elles sont dangereuses, des paysages, de la campagne. Une très, très belle fantaisie que vous allez aussi découvrir. Et j'aurai le grand bonheur d'animer le café littéraire spécial consacré à Kristen Brittain. Et puis, toujours auteur américain, James Morrow, qui boit notre eau, voilà, avec bonheur. James est lui aussi quelqu'un qui fait un pont entre la France et les États-Unis. C'est un homme de grande culture, comme d'ailleurs tous nos amis ici, mais particulièrement attaché aux écrivains français du 19e siècle. C'est un écrivain new-yorkais, ça dit des choses, et c'est un écrivain qui raconte des histoires passionnantes tout en ayant évidemment une réflexion qui nous conduit à retrouver, du point de vue américain, l'esprit des Lumières dont nous avons tous tant besoin. Et puis, Mike Resnick, Mike Restic ne pouvait qu'être un de nos invités. C'est un grand bonheur pour moi de le retrouver. J'ai eu le plaisir de le publier autrefois dans une revue que j'animais. J'ai été ébloui par ses nouvelles. On nous dit que les Américains, parfois caricaturés vu de France, ont une image étriquée du monde. Certains, comme sans doute chez nous. Mais Mike Resnick, lui, a beaucoup voyagé. Il aime l'Afrique et il nous parle dans sa science-fiction à la fois du passé de l'Afrique et peut-être de son avenir. Et il s'interroge toujours avec un regard humaniste, intelligent et néanmoins le regard du voyageur. Donc là aussi, on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus longuement. Et pour finir, Marie Brennan. Tout simplement, je conclue par elle avant de leur donner la parole. Tout simplement parce que Marie Brennan a obtenu cette année, ça n'était pas prévu puisque le jury, je n'en fais pas partie, a obtenu le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy traduit. Histoire naturelle des dragons, on aura l'occasion d'en parler. Là aussi, tiens, personnage de femme forte, énergique, qui parfois fait plus peur aux hommes de sa société néo-victorienne que les dragons qu'ils doivent traquer, avec donc pas mal d'humour aussi, et vous verrez, c'est une belle écriture. Voilà, j'ai présenté un peu nos auteurs, bien évidemment, nous en avons encore deux qui sont eux des auteurs français. Nous avons Hélène Larbette, la fichiche, je crois que notre députée maire nous a dit toute l'admiration que nous portons à son travail, qui en plus a pu se décliner. Je crois que c'est certainement l'affiche, non pas la meilleure, il y a eu de très belles affiches, il y a toujours de belles affiches aux Imaginales, mais son affiche a su décliner à la fois les États-Unis avec beaucoup de clins d'œil, à la fois le thème évolution-révolution, et aussi beaucoup de clins d'œil à la ville d'Épinal que vous retrouverez sur les petits cartons d'invitation et sur l'ensemble de nos documents. Merci beaucoup Hélène pour ce travail vraiment le plus spinalien sans doute de tous. Et puis évidemment Stéphane Plateau, qui a la lourde responsabilité de cette tribune de symboliser tout le dynamisme et le talent de l'imaginaire français, qu'il s'agisse d'auteurs de fantastique, de science-fiction et de fantasy. Stéphane Plateau a eu le prix Imaginal du meilleur roman de fantasy l'an dernier pour son premier roman, trois fois seulement au cours des Imaginales. C'est une très belle écriture, c'est une incroyable poésie, ce sont des personnages extrêmement forts et c'est aussi une narration inouïe. Vous verrez, c'est vraiment un des auteurs qui en trois romans, un cycle avec deux premiers romans d'une trilogie et peut-être une tétralogie, s'il va pouvoir conclure en quatre livres. Et puis aussi un livre sur les ogres dont on parlera. Stéphane Plateau, c'est certainement une des grandes signatures, une des grandes jeunes signatures de langue française, mais il est belge. Mais il est belge, nos amis belges aussi ont bien du talent. Et Stéphane Plateau, donc, est le coup de cœur de ces Imaginales 2016, dont vous allez beaucoup, beaucoup le voir, le lire, et je vous encourage à vous plonger dans ces livres et à vous les procurer. Voilà, j'en ai assez dit. Je crois que j'ai présenté l'ensemble de nos auteurs et du festival. Je voulais tout simplement poser la première question justement à notre coup de cœur. Stéphane Plateau, quand on a l'ambition de devenir écrivain, quand on investit une partie de sa vie, sinon toute sa vie, dans ce métier et cette passion, c'est les deux à la fois pour vous, qu'est-ce que ça fait dès son premier roman d'avoir le prix Imaginal et qu'est-ce que ça fait d'être l'année suivante le coup de cœur du festival ?
Bah, ça fait énormément plaisir parce que la personne qui m'a accueilli dans le milieu littéraire, le premier, c'est Yael Ayerdal, qui est même le premier à avoir lu mon manuscrit. Je ne sais pas si on m'entend bien comme ça. Voilà. Et j'étais évidemment tout de suite avide d'entendre parler des salons, des auteurs, de toute cette grande aventure qui allait commencer pour moi. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Les Imaginales, c'est merveilleux ». Mais avec un sourire énorme, on va parler un peu de... évidemment du festival lui-même, des bords de la Moselle, des Magic Mirror, des after-parties qui durent parfois très très tard. Et Dieu sait qu'il savait les mener très tard. Et donc, effectivement, c'était vraiment le festival que j'attendais de découvrir avec des étoiles dans les yeux. Alors, ça n'a pas été, en plus, les deux premières éditions, ça n'a pas été évident parce que j'ai mis très longtemps avant d'être sûr que j'y serais vraiment. Et puis, mais finalement, j'ai vraiment pas été déçu. Et je dois dire que, donc... effectivement, recevoir le prix et être coup de cœur l'année suivante, ça ne fait que renforcer une histoire d'amour qui était déjà bien entamée avant même qu'on se rencontre.
Hélène Larbette, vous avez obtenu l'an dernier, pour un ouvrage absolument magnifique, le prix Imaginal de l'illustration. Et ça a donné envie à Stéphane Vizère, le directeur des affaires culturelles d'Épinal et le directeur surtout de ce festival. Ça lui a donné vraiment envie de vous confier l'affiche. On en a discuté et c'était une évidence dès qu'on a vu votre travail. Qu'est-ce que ça vous a fait d'abord d'être le coup de cœur ? Inutile de nous dire que vous êtes contente, on s'en doute. Mais surtout, qu'est-ce que ça vous a fait comme challenge ? C'est-à-dire, quand on vous a dit qu'il faut mettre le château d'Épinal, il faut des références, etc., un petit peu au thème de l'année. Comment vous l'avez décliné ? Est-ce que ça vous a stimulé toutes ces contraintes ? Est-ce que la contrainte, finalement, pour un artiste, c'est la liberté ?
Alors, effectivement, j'avais avec Stéphane, on en avait discuté, c'était un idéal de pouvoir introduire dans l'affiche un maximum de références, y compris de références à la ville d'Épinal. Et ce qui aurait pu paraître pour une contrainte, finalement, a été effectivement une vraie stimulation. Pour moi, c'était un défi, un challenge. Je me suis dit, bon, ben voilà, il y a beaucoup de références très intéressantes que je peux placer, avec vraiment un pont que j'ai voulu faire entre la ville d'Épinal et le pays invité, sur le thème donc de la révolution. Et finalement, c'est vrai que c'est ce cadre, on va dire, ce cahier des charges m'a offert finalement effectivement une grande liberté parce que c'est de création, parce que c'était un défi. Il fallait pousser son imaginaire pour essayer de finalement se libérer du cadre tout en étant dans le cadre. Donc voilà.
Marie Brennan, c'est la première fois que vous venez en France dans un festival. C'est la première fois que vous venez en France tout court. Et vous venez d'emblée avec le prix, le premier prix de fantaisie qui est décerné en France, et vous le décrochez pour votre roman. C'était une surprise, j'imagine. Vous êtes d'abord invité, et ensuite on vous annonce, et franchement, c'était absolument pas téléguidé. C'était le choix du jury. Vous avez le prix Imaginal, voilà, le premier prix décerné à votre roman, à votre histoire naturelle des dragons. Ça vous fait quoi ?
I have been to France before, 1.5 times. I visited Paris for about 5 days because I have a friend who lives there, and then I spent about half a day in Saint-Tropez, but that isn't really enough time to count. And this is the first time I've been invited to any event outside of the United States. I can't imagine a more fantastic way to start. I've heard such wonderful things about this event, and it's every bit as beautiful as I'd been told. So it's an honor on all fronts.
Alors, je suis déjà venue en France. C'est pas la première fois que je viens en France. J'y ai passé 5 jours à Paris, il y a quelques années, ainsi qu'une demi-journée à Saint-Tropez, je dois avouer. Et c'est ma première fois, par contre, à un festival littéraire en dehors des États-Unis. Et j'avais beaucoup entendu parler des Imaginales. J'avais entendu dire que c'était vraiment extraordinaire. Et je dois dire que cette impression est confirmée.
Comment on devient auteur de fantasy, Marie Brennan ? Vous avez écrit d'autres romans, hein, mais vous êtes encore une jeune auteure. Qu'est-ce qui vous a fait choisir la fantasy, tout d'abord ? Et ensuite, qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette idée de personnage quand même assez étonnant, qu'on pourrait dire néo-victorien, je pense que c'est le bon terme. Cette femme à la fois prisonnière encore, en tout cas au début de ce cycle, des conventions de sa société, et qui très rapidement, alors qu'elle est encore jeune, au travers de sa passion pour les dragons, animaux dangereux mais passionnants, eh bien, votre héroïne s'affirme face aux hommes et commence à construire son indépendance. Pourquoi un tel thème ?
I decided that I wanted to write fiction in general and fantasy in particular when I was about 9 or 10 years old, and I got serious about it when I was 18. So a lot of how I got started so young is just that I made up my mind young and started working on it. As for this particular series, it was a combination of a few things. The previous series that I wrote, The Onyx Court, are historical fantasies set in London at different points in English history. And the last book of that series, With Fate Conspire, is set in the Victorian period. So I already had that a bit on my mind, and some of the research I had done was about the history of science and especially female intellectual history. So I kind of had a number of real life models in my head, women like Isabella Bird, Gertrude Stark, Freya Stark, Gertrude Bell, in my mind. And they kind of fed in with some things I had seen that treated dragons from a more scientific standpoint and gave me the idea of the series. So I kind of segued sideways out of the Victorian period into something a lot like it, and the character more or less just sprang fully formed into my head.
Alors j'ai toujours aimé la fantasy, j'ai commencé à penser que j'allais en écrire, j'avais seulement 9 ou 10 ans, et je suis devenue sérieuse à l'âge de 18 ans. Donc c'est pourquoi j'ai commencé à faire ça, ben, je pense que j'ai décidé à un très très jeune âge et j'ai continué. Donc j'ai écrit avant une série historique qui portait sur Londres et le dernier épisode se déroulait à l'ère victorienne. Et j'ai commencé, en fait, dans le cadre de mes recherches pour cette série, j'ai découvert qu'il y avait, en fait, pas mal de femmes qui s'intéressaient déjà à la science à l'époque, des grandes intellectuelles comme Gertrude Bell ou Isabella Stark. Et donc, c'est un petit peu... Les personnages des dragons me sont venus. Elles voulaient étudier, avec une approche scientifique, l'existence des dragons. Donc, les personnages me sont venus presque tout faits, comme ça, et j'ai, en fait, réussi à réunir ensemble et les dragons et les femmes intellectuelles de l'époque.
Là aussi, Marie Brennan, est-ce que... C'est peut-être pas un hasard si on vous a choisi avec le thème Évolution-Révolution, qui était aussi, bien sûr, on l'a dit, un clin d'œil à la Grande Révolution, la première, la Grande Révolution américaine. On pense toujours, nous, vu du côté de la France, que la première, c'est la nôtre. Non, quand même, nos amis américains nous ont précédés. Est-ce que, justement, la Révolution qui est... cœur de l'action et de la réflexion de votre personnage principal, est-ce que c'est pas la conquête d'abord du courage, et est-ce que c'est pas ensuite tout simplement, et c'est le propre, j'espère, l'aspiration de chaque être humain, pas seulement les femmes, la conquête de la liberté, Marie Brennan?
As I think, when you said revolution before, what came to mind for me with regard to my own work was scientific revolution. The growth of knowledge when we discover new things that change how we view and interact with the world. That's actually a thing that I've hit in 2 different series now, maybe even 3. And it's an exciting thing to write about, I think, because not all revolutions have to be about people with guns shooting each other, but about changes in how we interact with the world.
Alors, la révolution qui m'intéresse moi particulièrement, c'est la révolution scientifique et de voir l'état des connaissances dans le monde et l'évolution au niveau des connaissances. Et je pense que cela concerne spécifiquement la perception que l'on peut avoir du monde. Et donc, j'ai abordé ces thèmes dans mes 2 séries. Pour moi, la révolution n'est pas spécifiquement armée, mais elle concerne aussi comment nous percevons le monde et comment nous communiquons les uns avec les autres.
Kristen Brittain, alors là, on quitte la fantasy urbaine de Marie Brennan et on est en plein dans la fantasy épique avec 5 volumes déjà de cette série. Et pour avoir lu les 5 volumes à la ligne, prêt, et les avoir terminés avant le festival, je peux vous dire que quand on continue une série comme ça, c'est toujours très bon signe. C'est qu'on est emporté par les personnages, emporté par l'histoire, emporté par les descriptions et aussi les rebondissements. Mais quand même, dans cette fantaisie épique, je dirais, ce cadre un peu classique, il y a 2 thèmes, moi, qui m'ont frappé. C'est donc, je le disais, la libération d'une jeune femme qui s'affirme dans un milieu où, quand même, traditionnellement, même si certaines femmes s'affirment, c'est quand même pas si fréquent. Et le deuxième point, c'est votre amour aussi des grands espaces. Comment vous conjuguez dans votre travail d'écrivain votre passé de garde forestier? On le sent dans tout le livre. Et à la fois cette aspiration pour les femmes, et peut-être pour tous les êtres humains dans cette société que vous décrivez, à la liberté.
First, bonjour, Epina. It is natural for me to bring the natural and historical cultural aspects of my park ranger experience into my books. A lot of us just naturally write about what we know. And when you spend a lot of time walking in the woods, it is great for making the creative juices flow and making stories come alive. I used to have a job riding a bicycle on historical roads through the woods of Acadia National Park, and I wore green. And so if only I had a horse, it would have been very much like the books. As for the struggles of women, when I started writing this, I wasn't thinking about that so much as I could relate to having a female lead character in my books. I guess I wasn't really conscious of approaching it as struggles for women and challenges in that way. I just wanted to have an entertaining character who had lots of adventures and made for a fun reading experience.
Alors je dois dire que pour moi c'était tout à fait naturel de combiner les deux aspects de mes intérêts en fait, c'est-à-dire mon intérêt pour la nature qui m'entourait en tant que garde forestière, donc pour la forêt, et mon intérêt pour l'histoire. Et donc on nous a toujours conseillé d'écrire sur ce que l'on sait. Et pour moi, bien, c'était la forêt, c'était cela que je connaissais le mieux. Donc j'ai été payée, honnêtement, pour déambuler dans les sentiers forestiers historiques sur un vélo et habillée de vert. Donc la seule différence entre mon personnage dans le livre et ce que j'ai vécu dans la réalité, c'était que j'étais à vélo et pas à cheval. Donc ne manquait que le cheval. Donc j'ai été vraiment très heureuse dans ce travail dans la réserve forestière d'Acadia. Et pour ce qui est des femmes, eh bien, c'est quelque chose qui m'est arrivé assez spontanément. Je dois dire qu'au départ, je n'avais pas eu nécessairement l'idée de parler du combat des femmes, mais c'est quelque chose qui m'est venu. J'avais envie de créer des personnages passionnants et à qui il arriverait plein d'aventures. Et donc, ça m'est arrivé un petit peu spontanément d'en faire une femme, ce personnage.
Marc Resnick, je le disais tout à l'heure, c'est évidemment, quand on a la chance d'être directrice artistique d'un tel festival, on a aussi le bonheur de pouvoir inviter des écrivains qu'on a envie de faire partager. Et comme d'ailleurs notre ami Christopher Priest, qui est une de mes grandes admirations littéraires en science-fiction, Marc Resnick aussi, dans le domaine particulier de la science-fiction, est une de mes grandes admirations littéraires. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, entre autres dans la jeune génération, vous allez faire une belle découverte. Alors je dirais que dans cette délégation américaine, Marc Resnick, quelque part, est un peu l'Américain apparemment traditionnel. Il aime le hamburger, il aime la viande, on ne va pas l'emmener dans le restaurant de végétarien d'Épinal. Il boit plutôt du coca et bon voilà, une tradition américaine. Et on pourrait discuter de plein d'autres sujets puisque je connais un petit peu Mike et ses opinions. Et on retrouve évidemment dans sa science-fiction galactique d'action, Santiago, je cite quelques titres, on y trouve des hommes, des mecs, des vrais. Bien fait, hein, des romans qu'on lâche pas. Ça, c'est une première partie de son travail d'écrivain, passionnant, romancier d'aventure de science-fiction. Et puis à côté de ça, je le disais au début, pour nous surprendre, pour casser les clichés peut-être, pour faire sa révolution et nous pousser à faire la nôtre, de ne pas accepter les idées reçues, quelles qu'elles soient. Marc Resnick est un grand voyageur, et Marc Resnick est en particulier un passionné de l'Afrique. Et il a écrit des nouvelles et des romans. Cette série, cette trilogie vient d'être éditée par nos amis d'ActuSF, l'Infernal Comedy, qui est une réflexion sur le colonialisme, la rupture avec le colonialisme, et les échecs aussi parfois de certains peuples de la planète dans leur tentation et leur tentative de se libérer du passé en construisant parfois un avenir discutable. Et c'est toute cette réflexion, Paradis, Purgatoire et Enfer, hein, c'est les noms des trois romans qui font cette trilogie, une réflexion passionnante sur l'Afrique, et puis aussi des nouvelles absolument merveilleuses, même si vous ne lisez jamais de nouvelles. Faites une exception pour Mike Resnick. Son recueil de nouvelles chez De Noël, dont j'ai d'ailleurs plusieurs de ces nouvelles, je les ai autrefois publiées. Elles ont eu plein de prix aux États-Unis. C'est un des auteurs les plus primés de la science-fiction américaine. Il nous raconte là aussi des histoires avec des sorciers qui travaillent à l'ordinateur, qui font tomber la pluie, mais en fait, ils appellent la maintenance parce que, voilà, tout en gardant son peuple dans une certaine ignorance, ce sorcier a deux doctorats, mais applique les traditions, y compris en étouffant à la naissance les enfants qui naissent les pieds devant. Et c'est une façon, une conception qu'a cet homme de maintenir la culture. Et une de ses nouvelles, Toucher le ciel, je ne vais pas en parler longtemps, je vais me mettre à pleurer, c'est une nouvelle tout à fait extraordinaire où une petite fille, par hasard, elle découvre l'ordinateur du sorcier, elle apprend On ne vous dira pas comment ça se termine. Pas très bien. Mais c'est aussi une réflexion sur l'accès à la culture des filles. Alors, Mac Resnick, vous nous arriviez apparemment comme un Américain traditionnel, avec ses côtés que nous connaissons bien, les images que nous avons en tout cas, et vous nous surprenez en passionné d'Afrique et en défenseur de la libération des femmes. Parlez-nous de cette révolution-là et de vos écrits, Mac Resnick. Pourquoi l'Afrique ? Pourquoi cette vision ?
Bonjour. I've been coming to France to conventions now for almost 20 years. Stephanie invited me to Nancy a couple of times. I've been to Saint-Malo. I've been to, I know there's another one I'm forgetting. Ah, doesn't matter. Anyway, I've been to five or six of them. I've made a number of friends here, although I still only know two words in French, bonjour and merci. One of my friends, I don't see him in the audience now, Jean-Claude Dugnac, he and I collaborated on a story that I guess just came out this month. And in terms of what I write, basically all I've ever been is a writer. I've never had a day job. I've been a writer full-time for more than 50 years. So eventually, I've gotten around to writing on almost every possible topic. Some mean a little more to me than others. I think I've done 78 novels and about 300 stories and a couple of screenplays. And the stuff I've written that seems to have received the best reception have been a number of novels and stories about Africa. And I believe there's a reason for that. I think everybody in this room will agree that if we can reach the stars, we're going to colonize them. And I think you'll also agree that if we colonize enough of them, sooner or later we're going to come into contact with a sentient race. And I think Africa offers 51 very good examples of the deleterious effects of colonization on both the colonized and the colonizers. So I have been using Africa as a metaphor for what may happen a few hundred years from now when we finally get out into space further than this system. Well, that's enough for you to remember at once. Oh, you're on this side.
Yeah, to use this microphone makes my life easier. Alors, pour ce qui est des festivals en France, ce n'est pas du tout ma première fois en France. Je suis venue, j'ai commencé à venir il y a une vingtaine d'années. Donc, je suis venue à 5 ou 6 festivals littéraires, dont Nancy, Saint-Malo. C'est Stéphanie qui m'avait invitée à Nancy à l'époque. J'ai même maintenant des amis en France. Malheureusement, je ne connais toujours que deux mots en français qui sont bonjour et merci. J'ai un très bon ami ici qui est Jean-Claude Dugnac. Je ne le vois pas dans le public là, mais nous avons écrit une nouvelle ensemble qui vient d'être publiée, qui a été publiée ce mois-ci. Donc vraiment, je suis très proche de la France. Cela fait 50 ans maintenant que j'écris, pour revenir à mon sujet. Cela fait 50 ans que j'écris à plein temps. Je n'ai jamais fait d'autre boulot. Et j'écris sur tous les sujets. J'ai écrit 78 romans, 300 nouvelles, dont beaucoup sur l'Afrique. Et ce sont ces romans et ces nouvelles qui ont obtenu le plus grand succès. J'ai écrit également un ou deux scénarios. Et je pense que ce qui m'attire principalement pour ce qui concerne l'Afrique, c'est en fait le processus de colonisation. Donc, on est d'accord que si un jour on va explorer les étoiles, on n'aura qu'une envie, ça sera de coloniser les étoiles. Mais là, on a, et en colonisant les étoiles, on y rencontrera sans doute d'autres êtres intelligents. Mais là, avec l'Afrique, nous avons au moins 51 exemples de colonisation et de problèmes que la colonisation a entraîné, tant pour les colonisateurs que pour les colonisés. Donc je pense que cela m'inspire énormément, et je pense que c'est vraiment une métaphore. Donc cette situation en Afrique, c'est vraiment une métaphore pour ce qui risque de se produire quand nous irons coloniser les étoiles d'ici quelques siècles.
Okay, I remembered the name of the convention, Nance. Okay.
Effectivement, c'était à Nantes.
Oui, je vais passer la parole à James, mais avant, je sais que Stéphane va avoir une interview, alors je vais faire une petite entorse à la règle pour lui permettre d'aller voir déjà les médias qui veulent le rencontrer. Qu'est-ce qui vous parlez de Stéphane des mythologies et c'est oui juste un mot vous juste un mot vraiment une seconde vous parlez des mythologies.
Je pensais que tu me congédiais.
Non
en
non
fait.
non quand même pas. On va vous demander dans deux minutes. Vous nous parlez dans vos romans des mythologies. C'est la base un peu l'histoire et les mythologies. Et puis là aussi Révolution, c'est une société que vous nous décrivez dans votre cycle qui est en but à une guerre civile. Et les personnages que vous mettez en scène sont des personnages qui se lancent dans une sorte de longue remontée d'un fleuve avec pour but d'aller dans le nord. Cette guerre civile a lieu dans le sud. Et ce que veulent ces personnages, c'est trouver, d'après des légendes et des recherches, ce qui serait une sorte d'arme secrète pour retourner un peu la situation. Mais au-delà de ça, c'est aussi une déambulation, c'est aussi une rencontre, c'est aussi une interrogation sur les parcours entrecroisés de vie. Et dans chacun des tomes de votre cycle, c'est vu, l'action se développe, mais c'est vu par les yeux, c'est raconté par un personnage différent. Ça vous est venu comment, cette idée de construire votre cycle ?
Alors, c'est vrai qu'au départ, avant de m'attaquer à mon premier roman, j'avais beaucoup d'envies différentes, et j'avais sur la table une série de parcours de vie, dont j'avais finalement le début, dont j'avais l'origine, mais pas la conclusion, et donc j'ai eu envie de les croiser, de les mélanger ensemble et de les mettre littéralement dans le même bateau. Donc, le narrateur est toujours le même hein, dans la trame principale du roman, mais dans chacun des tomes, il y a un personnage qui va raconter son récit de vie, qui va expliquer ce qu'il fait là, ce qui l'a amené finalement à être à bord de ce bateau dans la quête du roi d'Iseur, donc de l'oracle. Et puis, ça donne l'occasion finalement de raconter des parcours de vie dans cet univers que j'ai beaucoup travaillé et qui a pendant des années et qu'il y a des influences et des origines qui puisent à la fois dans les mythes celtiques, scandinaves qu'on retrouve habituellement en fantasy, les mythes grecs et romains, mais aussi dans les mythes hindous. Et dans mes inspirations, j'ai comme Mike également des voyages dans le sud de la planète, notamment en Afrique et puis bien entendu en Inde où j'ai vécu, qui m'ont donné un regard sur ce qu'était vraiment une société traditionnelle. Ce qu'il y a de plus proche d'un monde médiéval fantastique, en tout cas quand on le regarde par la lorgnette, par le point de vue du petit peuple, c'est justement une maison d'Afrique ou d'Inde où on a une famille de 7 enfants, sachant qu'il y a 3 frères qui sont morts en bas âge, qui sont dans la même pièce, qui vivent avec pas la même notion de la pudeur, avec pas la même notion de la vie et de la mort, avec pas la même notion de l'importance de leur individu à l'échelle des générations. Et c'est ça que je trouve fascinant. Et puis, par mon travail de mon autre métier, puisque je ne peux pas vivre de l'écriture seul actuellement, qui reste un métier qui est engagé dans le travail social, j'ai évidemment une grande sensibilité à d'autres causes, dont le statut de la femme, dont on commence à parler très fort dans le tome 2, dont la question des marginaux, dont la question des groupes minoritaires, des identités minoritaires, etc., qui vont se développer de plus en plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui puise à tout ce que j'ai croisé, tout ce qui m'a marqué. Quoi.
Merci, vous êtes libéré, Stéphane, à tout à l'heure. Le temps nous presse parce que vous savez qu'à 11h, même quelques minutes avant, on va devoir libérer la salle. On pourrait parler des heures avec nos invités, mais je voulais quand même que James Moreau, en un mot, nous dise. Il a écrit, il nous a annoncé, mais ça, je crois que Nietzsche l'avait fait avant lui, que Dieu était mort. Mais par contre, James Moreau, lui, nous a décrit le gigantesque corps de Dieu tombé dans l'océan et remorqué par un super tanker, le Vatican voulant éviter évidemment qu'on ne profane le dit corps. Donc voilà, premier roman, Remorquant Jéhovah, c'est comme ça que James Moreau, un peu iconoclaste, un peu provocateur, avec toujours un sens de la dérision et de l'humour, aborde en fait des grands sujets qui est sur la transcendance, les religions, et puis qu'est-ce que, quand on n'est pas croyant, qu'est-ce que c'est avoir une conception de l'humanité. Je citerai juste deux titres, à part cette trilogie de Jéhovah, Le dernier chasseur de sorcières et L'apprenti du philosophe. James Moreau, vous êtes plutôt chasseur de sorcières ou apprenti philosophe ?
Bonjour à tous. Et je vous présente mon interprète, grand écrivain, Lionel Davoust.
Thank you.
Maintenant, en anglais. J'ai oublié la question. Oh, non. Am I more a witch hunter or a philosopher? Depends. Bon question. Both. I had a kind of religious experience when I was a student at lycée, when I was 15 years old.
Bien, ma foi, je suis un peu des deux. J'ai eu une sorte d'expérience un peu religieuse quand j'étais lycéen, j'avais 15 ans.
I read Candide by Voltaire. And I decided there was no God except for the God of Voltaire, the deist God.
J'ai cette expérience, c'est que j'ai lu Candide de Voltaire. Et j'ai décidé à cette occasion que Dieu n'existait pas, en tout cas il n'y avait pas d'autre Dieu que le Dieu de Voltaire, c'est-à-dire sa vision déiste du monde.
What I love about the God of Voltaire is it doesn't matter whether he exists or not.
Et ce que j'aime beaucoup avec le Dieu de Voltaire, c'est que le fait qu'il n'existe ou pas n'a aucune importance.
And ever since then I decided that God put me here to argue against his existence in my novels.
Et depuis ce jour-là, j'ai décidé que Dieu m'a mis sur terre pour que je discute et que je réfute son existence à travers mes romans.
C'est tout.
Voilà, vous découvrirez l'humour de James pendant tous ces jours, mais aussi la grande qualité de ses romans, qui réussit à aborder des questions sérieuses sans jamais ennuyer, ce qui est quand même un tour de force. On va achever cette présentation, entre autres de nos auteurs américains, avec Daniel Trussoni. En France, il y a des questions qu'on ne pose pas. Nous avons des pudeurs qui ne sont pas toujours les mêmes que celles d'autres peuples, et entre autres des Américains. Vous parlez dans vos romans d'anges, en tout cas dans les romans qui sont traduits, les deux romans qui ont été traduits en France, Daniel Trussoni, jamais je n'oserais poser cette question à un auteur français parce qu'elle serait choquante et impudique, pas laïque, mais vous êtes américaine et ça ne choquera aucun américain. Vous êtes croyante, Daniel Trussoni?
Mais je suis français aussi. Non, bonjour tout le monde. First I'll say, being back in Epinal makes me feel a little bit old because I came here over 20 years ago in an exchange with La Crosse, Epinal, and it was my first experience in France and it changed my life completely.
Je suis aussi en partie française. Bon, la première chose que je voudrais dire déjà, c'est que revenir à Épinal me fait un peu me sentir vieille, puisque la première fois que je suis venu, c'était il y a plus de 20 ans, lors d'un échange d'étudiants avec La Crosse, justement. C'était mon premier contact, ma première expérience avec la France, et ça a absolument changé ma vie.
And now to answer the question, I view the Bible in my books as mythology. I use the Bible, a lot of stories from the Bible, and I take them and I say, what if? What if this were real?
Et maintenant, pour répondre plus précisément à la question, dans mes livres, je considère beaucoup la Bible comme de la mythologie. Je me sers beaucoup des récits qu'on y trouve. Je les prends et je me pose la question en me disant, et si c'était réel qu'on les prenait au pied de la lettre.
And so, for example, there is one passage in Genesis that said a certain type of angel fell to the earth, fell in love with a human woman and created a new race. And for me, this was incredibly interesting, this idea that perhaps, because so many of us do believe that the Bible is real. What if that really happened?
Par exemple, il y a un passage dans la Genèse où il est dit que un certain type d'ange est tombé sur terre et tombé amoureux d'une femme et qu'ils ont fondé une nouvelle espèce. Pour moi, j'ai trouvé ça incroyablement intéressant. Et il y a tellement de personnes qui, à travers le monde, prennent vraiment la Bible au pied de la lettre que je me suis posé la question en me disant « Et si c'était vrai ?» Et c'est un formidable point de départ.
So to really answer the question, if I believe or not, it's complicated for me because I think that I hold two ideas at the same time. I believe in a certain way, but maybe not the traditional way.
Et donc, pour vraiment, vraiment répondre à la question, pour moi, c'est un petit peu compliqué. Je dirais que j'ai à peu près deux visions en même temps. C'est que je crois d'une certaine manière, mais ce n'est pas la manière traditionnelle.
Ma question était, d'un point de vue de français, totalement indécente. Et ma question ne posait aucun problème à nos amis américains. Ben oui, nous sommes des cultures différentes avec beaucoup de points communs et aussi des différences de notre façon d'appréhender le rapport à la pudeur et à l'impudeur. C'est aussi ça qui est passionnant avec le pays invité, c'est qu'on découvre d'autres cultures, cultures dont nous rapprochent beaucoup de choses. Et puis parfois, il y a des différences et c'est intéressant de les faire toucher du doigt. Je remercie vraiment tous nos invités pour leur disponibilité. Je renvoie aussi à l'anthologie Fées et Automates, anthologie des Imaginales. Et Mike Resnick faisait allusion à cette anthologie puisque pour la première fois, nous avons une nouvelle franco-américaine. Lorsqu'il a su qu'il était invité aux Imaginales, Mike a proposé à Jean-Claude, puisqu'il connaissait de longue date, d'écrire une nouvelle en commun. Et vous découvrirez cette nouvelle signée, co-signée Mike Resnick, Jean-Claude Duniac. Voyez les ponts, on en jette plein aux Imaginales. Et le dernier point que je voulais faire, c'est tout simplement un amical salut à nos fidèles grognards. On a de plus en plus de groupes qui viennent comme ça nous mettre de l'image, de l'histoire aux Imaginales. Mais vous êtes parmi les fidèles des fidèles, c'est conforme au statut du grognard, mais je tenais quand même à vous en remercier. Voilà, le coup d'envoi est fait, ça se démarre bien visiblement, ça débute bien dans la bonne humeur, dans l'enthousiasme. Je crois que le député maire nous a bien rossé le tableau de tout ce qui vous attend et encore plus. J'en profite pour saluer Sarah Doc, qui est traductrice, qui est une amie de longue date des Imaginales, qui est aussi écrivain elle-même et par ailleurs compagne d'Ayardal, à qui on rendra un vibrant hommage lors d'un café littéraire vendredi que j'aurai le plaisir d'animer malgré tout. Et puis samedi, on se retrouvera à 18h30. Pour un moment d'hommage aussi, parce que la vie, c'est nous tous, c'est ce festival. Mais on n'oublie personne, et surtout pas des gens comme Ayardal. Et ce festival, que j'espère heureux et plein de belles rencontres, c'est à cette belle rencontre-là que je la dédie à notre ami Ayardal. Merci à tous.